Gracier la bête, de Gabriel Massa. Lu par Victorien Robert. Alors que je roulais vers une mort certaine, sans savoir cependant celle de qui ou de quoi, je pensais à mes parents. La nuit où j'avais compris qu'ils m'aimaient ressemblait à celle-ci. Un instantané de colère drapé dans un ciel de poèmes baudelairiens. Le vent du nord cinglait les branches nues des arbres et des torrents de pluie battaient la route dans un vacarme à rendre fou. J'avais à peu près l'âge d'Audrey, 14 ans. Adolescent, j'étais la pire des plaies. Tout dans notre hameau de l'Aubrac m'emmerdait. Je détestais la neige, les vaches, le silence, faire une heure de bus pour aller au collège, le potager plein de choux et de navets la moitié de l'année, mes petites sœurs qui adoraient tout ça, et mes parents qui l'avaient choisi avec pour probable dessein de me faire trépasser d'ennui. J'employais toute mon énergie à le faire savoir, en particulier à notre voisin, un vieux garçon crasseux et gueulard dont j'avais fait ma némésis. Je lui devais mon premier amour, Leslie, sa setter irlandaise, et mon premier déchirement, il lui avait logé une balle dans la tête parce qu'elle était épileptique, ma première branlée, en représailles j'avais tenté d'incendier sa grange, ma première gueule de bois, j'étais fortuitement tombé sur sa réserve de gnôle à 12 ans et demi, et même d'une certaine manière, mon dépucelage, avec une copine de lycée à qui le charme ancien de la grange finalement intact avait donné des idées. Cette nuit d'apocalypse, donc, j'avais piqué sa voiture. Comme ça, sans raison particulière. Et je l'avais envoyé dans un être 3 kilomètres plus loin. Je me souviens d'avoir titubé hors de l'habitacle et de m'être effondré en voyant ce qu'il en restait. La tôle pliée formait un accordéon grotesque. J'avais mal au cervical, du sang me coulait dans les yeux et mon poignet droit, celui qui avait échoué à rétrograder en seconde pour aborder le virage, ne répondait plus. Sous un déluge glacial, je m'étais assis face au cadavre mécanique, de l'autre côté de la route, et je m'étais mis à sangloter. J'avais peur. Peur de ce qu'il venait de se passer et de ce qui arriverait ensuite. J'ignore combien de temps j'avais attendu là. Quand le pinceau des phares de la voiture de ma mère m'avait aveuglé, j'étais trempé jusqu'à l'os. Ma mère, un reliquat de l'époque New Age, toujours vêtue d'un pull bariolé si grand qu'il semblait sur le point de l'engloutir. Elle vendait du pesto d'ail des ours et des tisanes sur les marchés, et m'avait transmis sa myopie terminale, ses épaules de catcheuse et sa regrettable opiniâtreté. Elle m'avait détaillé un long moment, insensible à la pluie, puis m'avait demandé si je pouvais marcher. J'avais dit oui. Elle m'avait fait asseoir côté passager, et nous étions revenus au hameau sans rien dire. Au lieu de tourner chez nous, elle avait poussé jusqu'à la ferme du voisin et coupé le contact devant sa porte. « Je t'attends là », avait-elle dit. Les larmes m'étaient montées aux yeux. De ma brève discussion avec le voisin, je ne me rappelle que la terreur et la honte. La douleur pulsa-t-il dans ma nuque et ma mère sortant de la voiture pour venir compléter mes excuses. Après ça, nous étions rentrés. Mon père nous attendait dans la cuisine, face à notre vieux téléphone à cadran et à la liste de tous les dispensaires, commissariats et connaissances à 50 kilomètres à la ronde. Tous rayés. Quand il m'avait vu, cabossé mais debout, il avait fondu en pleurs. Aussi émotif que ma mère était pragmatique. Il avait, du haut de sa grande expérience de saisonnier en station de ski, examiné mon poignet et décrété que ce n'était pas grave. Il avait couru chercher une compresse et de l'alcool pour nettoyer ma blessure au front, puis il m'avait préparé un bol de chocolat chaud. Finalement, le médecin consulté le lendemain nous avait appris que j'avais le poignet cassé, et le voisin avait accepté mes excuses à condition que je travaille à la ferme jusqu'à avoir remboursé sa voiture, ce qui m'avait pris 9 mois de week-end et de vacances, et qui, ramené à un tarif horaire standard, aurait dû lui permettre de se payer une Lamborghini. 30 ans plus tard, tandis que je poussais ma moto au-dessus des 100 km/h à la poursuite d'Audrey, dans cette forêt si semblable à celle de mon adolescence, je repensais au silence de mes parents quand j'avais bu mon chocolat chaud. À ce qu'ils avaient dû ressentir avant de me retrouver. La lumière de mon phare se réverbérait dans les flaques et sur les lames de brouillard, transformant l'écorce des chênes en kaléidoscope mouvant. Je sondais les bas-côtés sans vraiment savoir ce que j'y cherchais. Si, en fait, je savais. Je cherchais le manteau rose qu'elle portait ce soir-là, comme un mirage dans la brume. Il n'y avait plus que son prénom derrière mes lèvres serrées, son manteau dans ma tête, et une peur suffocante dans et tout autour de moi. J'ignore depuis combien de temps je quadrillais mon secteur, le cadran nord de la Grésigne, quand je repérais les traces de freinage. Deux lignes de gomme bien nettes sur le bitume irrégulier et quelques éclats de plastique, probablement des bouts de pare-chocs. Je pilais, larguais la moto en plein milieu de la route et me précipitais vers le bas-côté. Le manteau était là. Un pan reposait sur l'herbe mouillée du talus, comme un petit drapeau. Je sautai à pieds joints dans le fossé et, immergé jusqu'aux chevilles, le rejoignis. Dedans, Audrey avait l'air minuscule. Elle était repliée sur elle-même, comme une toute petite fille qu'on aurait grondée trop fort. Une bonne partie du feutre rose avait viré au rouge. Je le voyais même dans la quasi-obscurité. Et son bras gauche formait un angle impossible avec le reste de son corps. Il y avait du sang sur sa figure et dans son cou, malgré les ablutions patientes de la pluie. Ses lèvres demeuraient fermées en un rictus de souffrance. Son thorax se soulevait à un rythme affolé. Et le vent du nord avait déjà commencé à la recouvrir d'un linceul brun de feuilles mortes. Mais ce n'était pas le pire. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle me regardait. Ses yeux écarquillés ne sillaient pas. C'était comme si la vitalité qui avait fui son corps brisé s'était réfugiée là. Il savait qui j'étais, ce que je faisais à son chevet. Que j'étais responsable de ce qui lui arrivait. J'aurais préféré qu'elle ait l'air de dormir. À tous ces flics, psys, collègues et voyeurs qui me le demanderaient par la suite, je prétendrais d'ailleurs qu'elle était inconsciente quand je l'avais trouvée. Une princesse dans l'attente. Ou un petit animal en hibernation. Et plus je répéterai ce mensonge, plus la haine qui luisait dans ses iris couleur argile grandirait en moi, comme un cancer. Je voulus parler. « Ça va aller, Audrey. » Ou « Tiens bon, les secours arrivent. » Ou « Pardon. Pardon, c'est de ma faute. » Mais ce regard vissé au mien me paralysait. Dans ses yeux anormalement fixes, c'était la mort de l'un de nous deux que je voyais.